Chapitre 14, verset 1er de l'épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 12, verset 1er. Chapitre 14, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et le chapitre 4, verset 1er du chapitre 14 dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Ce matin, le titre de ma réflexion s'appelle « Les trois dimensions de la vie de l'esprit ». L'apôtre Paul dira premièrement qu'il ne veut pas que les Corinthiens soient dans l'ignorance au sujet de ce domaine. Et je pense que l'Église de Christ ne doit pas être dans l'ignorance quant aux dons spirituels. Nous savons que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'il est tout à fait capable, et nous l'avons vécu ce matin, de parler au travers d'un don spirituel, ce qu'on appelle en théologie d'un charisme, hein, qui est donné par un homme, par une femme, par vous ou par moi. Peu importe, nous y reviendrons. Et l'apôtre Paul, au début du chapitre 14, dit « Aspirez aux dons spirituels, désirez-les vivement dans le texte, désirez-les vivement. Il est nécessaire que chacun d'entre nous, et ici Paul ne dit pas « Vous les pasteurs, aspirez aux dons spirituels ». L'apôtre Paul ne dit pas « Vous les anciens, aspirez aux dons spirituels ». Il ne dit pas « Vous les hommes, vous les femmes, aspirez aux dons spirituels ». Mais la liste n'est pas fermée, au contraire, elle est pleinement ouverte. Il dit aux Corinthiens qui possédaient, d'après le chapitre 1er, tous les dons spirituels, de continuer à y aspirer. Et en réalité, il dit cela dans un contexte bien précis, c'est parce qu'il est en train de recadrer un petit peu ce qui peut se passer à Corinthe quant aux dons spirituels. Et je crois, mes frères et sœurs, que Paul dit aux Corinthiens, continuez à vivre votre vie de l'esprit, continuez à aller de l'avant, continuez à vivre de belles choses, continuez à avoir des dons des guérisons, continuez à avoir des parlers en langue, continuez, mais simplement, malgré ce que je vais vous dire, continuez à le faire, mais dans un cadre qui soit bien précis et bien figé, que je vais vous donner. Est-il nécessaire de souligner l'importance de la vie de l'esprit ? On se souvient qu'à la Pentecôte, les langues de feu se sont posées et que l'Église n'a plus jamais été la même, que les disciples n'ont plus jamais été les mêmes, que les 120 qui ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, ont été les fers de lance de la grande mission que Jésus avait donnée. Est-il nécessaire de souligner que, avant que Jésus ne commence son ministère, il y a eu le baptême d'eau ? Mais il y a eu également le Saint-Esprit qui s'est posé sur lui. Je ne parle pas de baptême dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui s'est posé sur lui, avec cette image de la colombe. Est-il nécessaire de souligner tous les miracles qui ont été faits au travers des dons spirituels par les apôtres, notamment dans les actes des apôtres ? Nous savons que l'évangélisation a au moins trois moteurs. Le premier, c'est la prière. Le second, c'est l'action. Le troisième, c'est la vie de l'Esprit. Si nous voulons gagner des âmes, si nous voulons que nos familles se tournent vers Jésus, si nous voulons que nos voisins se tournent vers Jésus, si nous voulons que la ville de Nantes appartienne au Seigneur Jésus, il est nécessaire que nous puissions vivre pleinement et entièrement cette vie de l'Esprit, comme nous l'avons entendu, que nous puissions pénétrer dans ce torrent, non pas du bout des pieds, mais corps, âme et esprit. Paul va cadrer les choses, parce qu'il y avait une telle abondance qu'un certain désordre s'immisçait dans l'église de Corinthe. Et ce recadrage va avoir pour but de rendre la vie de l'esprit moins choquante. Vous savez qu'à Corinthe, il y avait énormément de cultes païens qui étaient extrêmement exubérants. Et Paul voulait faire en sorte que lorsque les païens rentrent dans l'église, ils ne se croient pas dans un temple voué aux idoles, mais qu'ils puissent véritablement se prosterner, qu'ils puissent véritablement courber leur cœur devant Jésus en vivant une repentance authentique. Alors, quelles sont ces trois dimensions de la vie de l'Esprit ? La première dimension, c'est l'Église. Il est évident, et nous le vivons tous les dimanches matins, que les dons spirituels s'exercent au milieu du peuple de Dieu. Il faut bien se dire que les dons spirituels ne sont pas une fin en soi, mais que ce ne sont que des outils. Des outils glorieux, des outils extraordinaires, des outils fabuleux, mais ce ne sont que des outils. C'est-à-dire que Je pourrais schématiser un petit peu. Un jour, une brave dame a dit: ah, j'ai passé un bon culte, j'ai donné un don spirituel. Une fois, ça va. Puis le culte d'après: ah, j'ai passé un bon culte, j'ai donné un don spirituel. Puis le troisième culte, je la vois à la sortie, puis elle me dit: je dis, vous n'avez pas passé un bon culte? Ah non, j'ai pas donné de don spirituel. Pour cette brave dame, cette brave grand-mère, hein, le but ultime d'un culte, un culte était bon à partir du moment où elle donnait un don spirituel. Pour elle, c'était une fin. Et ce n'était pas un moyen. Hein, et ce n'était pas un moyen. Et je crois qu'il faut bien graver cela dans notre cœur. Le but du culte n'est pas d'avoir 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 dons spirituels, mais le but d'un culte, c'est d'adorer le Seigneur. Le but d'une réunion de prière, c'est de prier le Seigneur. Le but d'une réunion d'évangélisation, c'est d'adorer, c'est d'annoncer l'Évangile. Et on nous sommes rassemblés, bien certes pour vivre la vie de l'Esprit, mais dans un cadre que Paul, eh bien, va lui-même fixer et va lui-même ériger. Imaginons, aux folies des grandeurs, une demi-heure, allez, 40 minutes dans le louange. Et là, six dons spirituels de 5 minutes chacun. Faites le calcul, vous les matheux? Il reste pas grand-chose. Oh frère, ça fait beaucoup 5 minutes. On n'est pas aussi bavard. Allez, 4 minutes. 6 fois 4, 28. Il reste pas grand-chose quand même, hein? 24. Ouh, pardon. C'était pour voir si vous suiviez. 6 fois 4, 24. Il ne reste toujours pas grand-chose. Dites-moi, le but d'un culte est d'adorer. Et d'adorer. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Et Paul, eh bien, pour ce faire, eh bien, va légiférer en disant: voilà, trois parlent en langue, deux, trois prophéties. Et puis celui qui parle en langue, eh bien, il doit y avoir l'interprétation qui vient derrière. De manière à ce que, eh bien, les choses soient bien ordonnées, à ce que les choses soient bien carrées, à ce que les choses soient bien propres. Crois, mes frères et sœurs, que le surnaturel s'exerce dans l'ordre. Regardez Jésus quand il va multiplier les pains et les poissons. Quelle est la première chose qu'il va faire? Il va faire ranger, il va faire s'asseoir les gens par rangées de 50 et de 100. Et ensuite, il va distribuer les pains et les poissons. Lorsque David va commander à son armée d'aller, eh bien, se battre contre l'armée de son fils Absalom, lui-même ne va pas y aller. Il va structurer en colonne, avec des chefs, etc., de manière à ce que, eh bien, la victoire de Dieu, la victoire du peuple, hein, puisse être manifestée, mais il fallait de l'ordre. Et dans la vie de l'esprit, il en va de même. Il en va de même. C'est quelque chose qui est nécessaire afin qu'elle soit bien vécue, afin qu'elle soit efficace et afin qu'elle ne soit pas choquante. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de hurler. Une parole de Jésus suffit. Et puis, vous avez remarqué, Jésus, lorsqu'il va parler à la Samaritaine et lui dire: oui, combien tu as de maris, toi, déjà? T'es marié? Oui, tu as raison de dire que, parce que ton mari actuel, eh bien, n'est pas encore le tien. C'est pas long, hein? Pourtant, qu'est-ce que c'est profond? Lorsque, on va en parler tout à l'heure, mais l'apôtre Pierre va voir ce boiteux à la porte du temple: je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est pas long, hein? Mais qu'est-ce que c'est puissant? Parce que l'homme, eh bien, il va saisir cette parole et il va se lever. Quelques outils, quelques conseils que va donner Paul ensuite pour que les dons spirituels soient bien vécus dans l'Église. Premièrement, tout don spirituel a vocation à être jugé. C'est le don spirituel qui est jugé et non pas la personne qui le donne. Ça, c'est le premier point du premier point. Mais il est nécessaire, autant sous l'Ancienne Alliance, lorsque le prophète Ésaïe, lorsque le prophète Ézéchiel disait les choses, c'était oracle de l'Éternel, il n'y avait rien à dire. C'était bouclé, c'était fait. Et personne ne pouvait y rajouter quoi que ce soit. Autant sous la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens comme il écrira aux Thessaloniciens qu'il est nécessaire d'éprouver, de juger les dons spirituels de manière à voir ce qui est dans la pensée de Dieu, mais également de manière à voir ce qui ne l'est pas. Et que chaque don spirituel soit notamment éprouvé au filtre des Écritures. Et je crois que c'est important de le faire. Non pas dans un esprit critique en disant « qu'est-ce qui n'était pas ?»« Oh là là là, qu'est-ce qui n'était pas de Dieu là-dedans »« Qu'est-ce qui était humain là-dedans ?» Mais de le faire avec la vision inverse en disant « qu'est-ce qu'il y a de bon pour ma vie là-dedans »« Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son Église ?» Qu'est-ce que mon Dieu veut me communiquer? Qu'est-ce que mon Dieu veut me dire? C'est le premier conseil que l'apôtre Paul donnera. Le second, je l'ai évoqué, trois dons spirituels de chaque classe. Troisièmement, il va faire une longue tirade sur la nécessité que ce qui est dit soit compréhensible. Il y avait énormément de parler en langue à Corinthe qui n'était pas interprété. Il y avait une forme de concours de parler en langue. Mais il n'y avait jamais d'interprétation de manière à ce que finalement, l'Église ne comprenait pas, les personnes nouvelles ne comprenaient pas non plus. Et Paul va insister en disant, c'est bien de le faire. Mais simplement, si une personne nouvelle rentre, sa vie ne sera pas dévoilée. En revanche, eh bien, si c'est interprété ou bien si c'est une prophétie, alors eh bien, cette personne comprendra les choses et de ce fait, elle pourra se convertir. Donc, veillons toujours à ce que nos dons spirituels restent et demeurent compréhensibles de tous. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quatrième point, et Paul le souligne dans le texte que nous avons lu, entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui ont trait aux dons spirituels, il y a le chapitre 13, 1 Corinthiens 13. On le connaît par cœur. Vous, les jeunes qui êtes amoureux, vous connaissez par cœur. Vous, les moins jeunes qui demeurez toujours amoureux, vous le connaissez par cœur. C'est au milieu. Un don spirituel, et les dons spirituels s'exercent toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. Donc, bannissons toute agressivité verbale. Bannissons toute agressivité linguistique et veillons toujours à arrondir les choses. À les dire, si c'est une dénonciation, mais toujours dans l'amour. Lorsque Jésus va parler à cette femme adultère, il va dénoncer son péché. Va, tu peux y aller. Plus personne ne t'accuse, mais ne pêche plus. Toujours cet équilibre. Toujours cet équilibre. C'est bon, je fais suffisamment preuve d'amour, là. Cinquième point. Eh bien, il doit être conforme à la parole de Dieu. À partir du moment où un don spirituel n'est pas conforme à la parole de Dieu, est contraire à la parole de Dieu, il n'y a rien qui puisse être au-dessus des Écritures. Rien. Si un ange venait vous apporter un autre évangile que celui qui vous avait été prêché, bien qu'il soit décrété anathème, qu'il soit appelé anathème, qu'il soit rejeté, ne le croyez pas. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de la Bible. Aucun don spirituel. Peut-être quelqu'un a entendu à quelqu'un, voilà, il va t'arriver telle chose. Mais cette chose est contraire à la parole de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Aucune révélation, dira l'apôtre Pierre dans sa première épître, n'est supérieure à ce qui est écrit à la parole de Dieu. Donc, première dimension de la vie de l'esprit, c'est l'Église. De manière très schématique, je le conçois, et je reste tout à fait à votre disposition pour toutes les questions que susciterait cette première partie, comme la seconde, comme la troisième d'ailleurs. Deuxième dimension, notre quotidien. Parce que je vois dans vos yeux, de dire, mais allez, dans l'Église, on est grosso modo 130, 140. On doit tous aspirer aux dons spirituels. Mais, Olivier, tu nous dis que grosso modo, il ne peut y en avoir que trois de chaque classe. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, si on est 140, que je ne me trompe pas encore dans mes calculs, 137 frustrés qui vont dire « J'aurais voulu donner mon don spirituel, j'avais reçu quelque chose de Dieu !» Je comprends. Mais vous savez à quoi c'est dû tout ça? À une forme de déformation qui nous fait penser que les dons spirituels n'ont vocation qu'à s'exercer que dans l'Église. Non! La vie de l'esprit, ce n'est pas que le jeudi soir ou le dimanche matin. Mais la vie de l'esprit, c'est 24 heures sur 24. Regardez tous les dons spirituels qui sont donnés ou quasiment dans les actes des apôtres. Ils ne sont pas dans l'Église. Hormis acte 13, lorsque l'esprit va mettre à part eh bien, Paul et Barnabas. Acte 2, à la porte du temple. Ce don des guérisons qui est donné à l'apôtre Pierre qui va permettre à ce boiteux de se relever. Ce don de discernement des esprits à Éphèse avec cette femme animée d'un esprit de Python. Et ainsi de suite. Jésus est en nous par son esprit tous les jours. Nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, revêtus tous les jours. Votre armure ne reste pas à sa place lorsque vous quittez l'Église. Non, vous l'emportez avec vous. Et je l'emporte avec moi. Ce qui signifie que tous les jours, j'ai vocation à aspirer, à communiquer les dons spirituels dans mon quotidien, auprès de mes voisins, auprès de mon patron, pour mon entreprise, peu importe. Dieu peut se servir de nous. Notre foi et donc tous les outils qui y sont associés, c'est pour tous les jours. Rassurez-moi, vous ne priez pas Dieu que le dimanche. Rassurez-moi, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne l'ouvrez pas, lorsque vous rentrez le dimanche matin, vous ne la mettez pas sur le guéridon de l'entrée, et puis vous ne la reprenez pas le dimanche matin pour revenir au culte. Faites attention, parce que si je fais une visite et que je la vois sur le guéridon de l'entrée, hein. Mais, non, c'est tous les jours, à chaque instant, et par des moyens extrêmement divers et variés. Un jour, nous étions chez des amis, et puis cet ami me dit « Écoute Olivier, j'ai un grand problème à ma thyroïde, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Puis avec moi, j'avais une personne qui m'est très chère. Et cette personne a regardé cet ami dans les yeux, et puis c'est la première fois que je l'entendais dire ça, pourtant je la connais bien. De regarder notre ami dans les yeux et puis de lui dire « Tu vas être guéri. » Et j'ai vu quelque chose qui changeait dans les yeux de cette personne. La foi est venue de naître. En trois mots, elle a exercé un don des guérisons. Parce que cette thyroïde a été guérie. En trois mots. C'était pas dans une église, c'était sur le pas d'une porte. Un jour, mon père devait partir en mission, et puis il avait terriblement mal au dos. Et il était sur le point d'appeler pour tout annuler. Puis un de ses collègues, pasteur Quintin, qui l'appelle, et puis... lui dit « Alors comment tu vas ?»« Ouais, pas très bien, mon dos souffre, donc je vais annuler la mission en Bretagne. » Puis là, le pasteur Quintin de lui dire oh, « Tu sais Jean, l'Éternel est celui qui renouvelle les forces pendant la marche. » Non seulement il a fait sa mission, mais ses douleurs au dos eh bien, se sont nettement améliorées à son retour. C'était pas dans une église, c'était par téléphone. Voyez-vous, recherchons cette vie de l'esprit. Parce que Dieu ne guérit pas que dans l'Église. Parce que Dieu n'exhorte pas que dans l'Église. Parce que Dieu ne nous utilise pas que dans l'Église. Mais parce que Dieu, eh bien, est celui qui se sert de nous. Nous sommes ses serviteurs tous les jours et à chaque moment. Et nous avons vocation à le faire, à chaque instant. Et à chaque moment, nous pouvons être en bénédiction. Alors, ne rangeons pas notre équipement à côté de notre Bible sur le guéridon de grâce. Mais aspirons aux dons spirituels dans notre quotidien. Lorsque vous priez pour les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels pour votre quotidien, pour vos journées, pour chacun de vos instants. Et bien des choses changeront, bien des choses eh bien, bougeront. Première dimension, la vie de l'esprit dans l'Église, les dons spirituels dans l'Église. Seconde dimension, les dons de l'esprit dans mon quotidien. Troisième dimension, la vie de l'esprit au sens large, dans ma piété personnelle. On se sent souvent très limité dans nos prières. Et qui parmi nous ne s'est pas dit, j'ai l'impression de toujours dire la même chose? J'ai toujours l'impression de dire la même chose. J'ai l'impression d'être une machine à rabâcher les mêmes choses. Et puis c'est frustrant au bout d'un moment parce qu'on s'en rend compte. Essayez d'écouter vos prières. Qu'est-ce qu'il est patient, notre Dieu, quand même. Vous imaginez quelqu'un qui vient de vous voir tous les jours pour vous dire la même chose. Je pense que quelque part, vous fermeriez la porte ou vous éviteriez de l'ouvrir. Il va encore me répéter la même chose. Mais je lui ai dit que je le savais. C'est du harcèlement! Puis, je me dis que quelque part, on ne se fait pas forcément du bien non plus parce que on ressasse au travers de nos prières. Mon frère, ma sœur, Dieu a entendu. C'est sûr. Et il est en train de préparer les choses. Il a entendu. Alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je vais dire alors du coup? Parce que ça fait 20 ans que je prie comme ça. Qu'est-ce que je vais raconter? Et c'est là que toute la vie de l'esprit rentre en jeu. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte de Romains 8, hein, lorsque l'apôtre dira que eh bien, le Saint-Esprit nous inspirera dans nos prières. Et qu'il prendra ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qu'il nous le communiquera. On priera selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Donc certes, ça s'applique au parler en langue, mais je crois que ça s'applique même à nos prières personnelles. Essayez de dire, de vous mettre en prière, de vous dire, Seigneur, inspire mon cœur, s'il te plaît. Inspire mon cœur afin que j'ouvre un petit peu les fenêtres de ma piété, que je change un petit peu de sujet, que inspire-moi, s'il te plaît, ton esprit est en moi, s'il te plaît, je veux vraiment évoluer dans ce sens-là. Et vous verrez que très très vite, eh bien, vos priorités vont dévier. Vos objectifs ne seront plus les mêmes. Vos sujets de prière ne seront plus les mêmes. Et ça va dépoussiérer votre relation avec Dieu. Heureusement que lorsqu'on a un ami, on ne parle pas toujours de la même chose avec lui. Sinon, ça ne resterait pas un ami longtemps. Mais les sujets de conversation changent. Et je crois que Jésus est notre ami, notre frère, hein, et qu'on a besoin eh bien, de changer nos sujets de conversation avec lui. De l'écouter un petit peu, d'écouter ce qu'il veut que l'on fasse, d'écouter un petit peu ce qu'il veut que l'on dise. C'est assez bouleversant de rentrer dans cette dimension-là, parce que ça a des désagréments. Il arrive qu'on dorme moins bien. Je me souviens, on était en vacances, c'était l'an dernier. Plein milieu des vacances, on commençait juste à se reposer. Et puis, on s'était couché tard avec Myriam. Et puis, on devait se lever tôt. Et c'était quoi? 1h30, 2h du matin. L'Esprit de Dieu qui me donne un coup de coude. Prie pour ça. Non, je suis en vacances. C'est ce que je lui ai répondu. Non, je suis en vacances. Ils ont qu'à se débrouiller. Je suis en vacances. Pas bien, hein? Fais-le. Bon, mais d'accord. Alors, tout doucement, je suis sorti du lit pour ne pas réveiller ma douce et tendre. Sinon... Le Seigneur l'a endormi, hein. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça a sauvé la vie d'une personne. Elle pensait à se suicider. Et à mon retour, je l'ai visitée. Et puis elle m'a dit, voilà, j'ai traversé une période difficile, là, telle situation. Je lui ai dit, je peux vous dire quand est-ce que vous avez eu ces pensées-là? C'était tel jour, à telle heure. Elle m'a dit, comment vous savez? Parce que ça m'a réveillé. Mais voyez-vous, ça bouleverse notre vie. Ça a quelques désagréments, mais qu'est-ce que ça dépoussière? On sort de la religiosité. Et puis on rentre dans cette relation où on parle à notre Dieu, mais où lui également nous parle. Où lui également nous parle. Allez, mon frère, ma sœur, on fait un challenge pour cette semaine. On ne prie plus pour les sujets habituels. Et on demande au Saint-Esprit de nous inspirer et de nous guider dans d'autres sujets, dans d'autres thèmes, que l'on peut piocher dans la parole de Dieu, que l'on peut piocher dans, eh bien, qu'on peut piocher dans les relations, dans les discussions que vous allez pouvoir avoir ensuite à la fin du culte, que vous allez pouvoir piocher, eh bien, dans votre réflexion. Changeons. Changeons. Ensuite, vous y reviendrez, hein, bien sûr, mais avec un regard nouveau, avec quelque chose de nouveau, et avec un cœur, finalement, eh bien, qui aura été mis à disposition de son Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. En conclusion, pour bien vivre la vie spirituelle sans frustration, ne la cantonnons pas à l'Église. À partir du moment où mon seul but est de vivre ma vie de l'esprit dans l'Église, je serai forcément malheureux. Et puis, je me sentirai vite étriqué. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de grâce. Si vous avez une pensée de Dieu, eh bien, donnez-la. Donnez-la. Mais recherchez les dons spirituels pour chaque moment, pour chaque instant de votre vie. Et vous savez quoi? Ça, c'est le second point de la conclusion. Vous pourrez exercer des dons spirituels sans même en avoir conscience. Et c'est les meilleurs qui soient parce qu'ils sont excellents pour notre humilité. Ah. Non seulement ils font du bien, mais ils ne nous font pas de mal. C'est les meilleurs qui soient. Encore faut-il les rechercher. Et prier pour. Prier pour. Troisièmement, soyons toujours pour bien, pour vivre une bonne vie de l'esprit. Soyons toujours conscients que nous sommes à la disposition de notre Dieu. Qu'il peut nous utiliser lorsqu'il en a besoin, parce qu'il nous a choisis, parce que nous pouvons. Ce qui présente, oui, quelques petits inconvénients. On est en train de travailler tout d'un coup, un sujet de prière. On est en train de regarder la télé tout d'un coup. C'est ma série préférée. On est à table. C'était bon ce qu'elle m'avait préparé, ma femme. Pourquoi est-ce que tu veux que je jeûne ce midi? Pour une fois qu'elle cuisine sans faire brûler quoi que ce soit. Elle n'est pas là, c'est pour ça que je me permets. Mais c'est bon pour notre âme. Et c'est bon pour l'œuvre de notre Dieu. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'obéir à Dieu? Et donc, de ce fait, tout le monde peut y accéder. Tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit peuvent accéder à ces dons spirituels qui sont finalement, eh bien, imprégné. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est qu'à 140, on n'en aura pas assez pour faire tout le bien qu'il y a à faire. Alors, prions pour, aspirons-y et recherchons-les, toujours dans l'amour et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous en donnera et dépoussiérera très très vite, eh bien, notre cœur et notre âme. Que son nom soit béni. Amen.